Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Au fond, nous sommes actuellement dans cette expression de la Trinité et le Père est révélé par le Fils. Nous disions dans notre précédent échange que c'est l'expérience terrestre, l'expérience incarnée du Fils de Dieu qui nous permet d'accéder jusqu'à ce qu'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu Trinité.
Oui, on passe du terrestre au céleste, c'est mystérieux, mais c'est le chemin même que Jésus nous a montré de retour vers le Père.
Alors, mais cette, là, le Père révélé par le Fils, quand on regarde bien, on peut être un peu surpris à ce Dieu tout autre de donner ce nom de Père, que ce nom de Père soit donné. Finalement, le nom de Père, l'expérience du Fils au Père, on se retrouve toujours dans la pauvreté de nos mots, si je puis dire, puisque le Père, pour nous, certains ont une expérience d'ailleurs mauvaise du Père, de leur Père dans cette vie ici-bas. Et donc, se retrouver à parler de Dieu comme Père, pour certains, ça doit être quelque chose qui n'est pas si facile que ça à vivre. Mais j'ai envie de dire que Dieu est Père, que le Fils de Dieu est en relation avec son Père, ça va nous permettre de nous représenter un peu quelque chose de ce qu'est ce Dieu Père à partir de l'expérience que nous avons du Père et qui, en bien des cas, est quand même une belle expérience, une bonne relation. Le Fils se reçoit de son Père. Et en même temps, finalement, que Dieu se présente aussi comme Père va donner à l'expérience humaine du Père tout un autre horizon.
Exactement. La notion de Père, finalement, illumine la paternité d'ici-bas. Et c'est ça qui est très beau. Saint Paul en fait allusion quand il dit « En lui remonte toute paternité ». Et la paternité n'aurait pas toute sa compréhension si nous n'avions pas cette révélation que Dieu est notre Père, non pas seulement Père, je dirais, du point de vue de toutes les créatures, et en particulier aussi de l'élection de son peuple Israël, dans lequel il apparaît comme un père par rapport à Israël, mais Père du Fils bien-aimé, du Fils unique, dans lequel nous avons à être, puisque nous sommes appelés à être fils dans le Fils, à être participants du Fils, participants de l'Esprit, et à trouver notre filiation dans le Père. Mais c'est vrai que chaque analogie, même les analogies les plus propres, nécessite une purification. Et comme tu disais très bien, pour certains, le mot « Père » peut apparaître être contraire avec le mot « amour ». Il y aurait comme une sorte de mauvaise expérience qui va handicaper cette dévotion vis-à-vis de Dieu révélé comme Père. Et l'Écriture, donc, a miséricordieusement aussi attribué à Dieu le titre parfois de « Mère ». C'est plus rare, mais c'est vrai que si je dis, par exemple, Isaïe, au chapitre 66, verset 13, que dit le prophète à propos de Dieu ? On vous caressera en vous tenant sur les genoux, comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolés. Et donc il y a une dimension aussi, je dirais, maternelle en Dieu. Dieu est au-delà de la différence des sexes, et bien sûr chaque qualité du père ou de la mère remonte à lui d'une manière transcendante. Et nous le savons, cela parfois est plus consolant quand on imagine un Dieu qui relève de la maternité vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la consolation qu'une mère peut apporter. Souvenons-nous dans le psaume 130-131, le Seigneur, on s'adresse au Seigneur, « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain, je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de prodiges qui me dépassent, dont je tiens mon âme en paix et silence comme un petit enfant contre sa mère. Oui. C'est très très beau ce passage. Et on comprend qu'il y a des moments où dans l'histoire de l'homme, son histoire personnelle, il a besoin de se blottir en Dieu comme un enfant, un petit enfant, se blottit sur les genoux de sa maman, où il va retrouver l'affection, la tendresse, la chaleur et le sentiment d'être consolé.
Et l'Écriture dit aussi un moment, pour aller de ce qu'est la miséricorde de Dieu, une mère peut-elle repousser ses enfants ?
Une mère peut-elle repousser ses enfants, exactement. Le mot miséricorde, c'est raham, c'est les entrailles de la mère, les entrailles fécondes de la mère. Et donc, du coup, on comprend très bien que ces analogies ont pu parler excellemment du mystère divin, puisque Dieu est par rapport à nous, cette miséricorde infinie qui s'exerce sur nous. Et ainsi, ces mots, bien sûr, doivent être gardés, puisque c'est Jésus lui-même qui les a donnés, ou la révélation. Mais il faut les prendre avec une certaine hiérarchie des vérités de la foi dont parle le catéchisme. C'est important de ne pas les perdre de vue pour ne pas dire tout et le contraire de tout. Si Jésus a préféré nous révéler le Père, c'est qu'il y a des raisons ultimes. Et nous en avons déjà parlé sur les derniers moments sur la croix. Jésus continue à dire « Abba, Père, mon Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il y a dans son rapport au Père quelque chose de si essentiel que nous ne l'aurions plus, nous serions orphelins en quelque sorte. Et Dieu veut faire de nous des fils heureux, des fils remplis de ce salut avec cette chose invincible, que l'union du Père et du Fils est totale, que l'Église aura le mot pour le dire, qu'ils sont consubstantiels.
Oui, et ce mot qui peut-être semble un petit peu barbare en un certain sens, va devenir beaucoup plus familier pour nous, puisque dans la démarche actuelle, où le missel, la liturgie, donc les textes de la liturgie, le missel en particulier, a été retraduit pour être à la fois plus proche du latin, enfin avec des critères qui au début étaient être le plus proche possible du latin, le plus fidèle possible au latin. Aujourd'hui, le pape François a demandé qu'il y ait aussi une fidélité à la langue et une fidélité à la culture, fidélité au latin, fidélité à la langue du pays et fidélité à la culture. Donc on va se retrouver avec le credo qui va nous changer.
Oui, oui, on va redire consubstantiel, comme l'ont dit autrefois
nous
nos
disions
ancêtres.
Avant, nous croyons en Jésus de même nature que le Père.
De même nature que le Père, c'est tout à fait exact, on peut le dire. Le concile de Latran IV en 1215, dans le fameux texte dit « firmiter », je crois fermement, on disait que Dieu avait même essence et même nature, donc on aurait très bien pu dire aussi co-essentiel ou co-naturel, de même nature ou de même essence, tout peut se dire, mais c'est vrai que la consubstantialité dit quelque chose d'un petit peu plus fort, parce qu'il y a l'être même, l'être intime de Dieu qui est affirmé, ils sont un même être. Et c'est vrai que le mot n'est pas complètement étranger à la Bible, ce n'est pas un mot philosophique qui serait totalement parachuté, je dirais, comme un aérolite qui arriverait tout à coup dans notre credo, comme certains disaient avec humour, mais qu'est-ce que vient faire Ponce Pilate dans le credo? C'est parce que c'est historique pour Ponce Pilate. Mais pour le consubstantiel, il y a déjà l'épiousios du Notre Père, celui qui est substantiel. Et nous savons bien que notre grand Saint Jérôme, quand il a traduit du grec le Nouveau Testament en latin, il a reconnu dans ce épiousios supersubstantiel l'Eucharistie même. Donne-nous aujourd'hui ce pain.
Il faut bien dire, donc c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain.
Oui, alors on peut le traduire de ce jour, mais c'est vrai que littéralement, c'est supersubstantiel. Donc le mot substantiel est déjà là. C'est pas une trouvaille total, il y a déjà des éléments, si vous voulez. Si les pères de l'Église, qui étaient de bons biblistes, ont pris ces mots, c'est qu'ils n'étaient pas complètement étrangers, non seulement à la culture, mais même à la révélation, et ils les ont seulement ajustée au mystère, parce qu'on ne pouvait pas dire seulement de Dieu qu'il était super substantiel, même si ce n'est pas faux. Il fallait dire surtout la communion entre le Père et le Fils, et donc le mot consubstantiel exprime le maximum de communion qu'on peut exister entre deux personnes. Elles ont le même être, et c'est ça qui est affirmé d'une manière très forte. Parce que avoir la même nature, nous avons tous
de
les hommes.
De différents peuvent avoir la même nature.
De différents peuvent avoir la même nature, c'est énorme, mais on n'a pas pour autant le même être. Regardez, tous les hommes ont la même nature,
mais pas le même être.
Et même la nature animale, nous la partageons avec encore plus de créatures d'ici-bas. Toutes les créatures animales, on peut dire que nous avons la même nature.
Je ne suis pas une girafe.
Et nous ne sommes pas une girafe, ni un éléphant.
Donc, c'est vrai que ça va faire un petit changement quand même de la liturgie, ceci et d'autres changements. Mais ça nous rappelle l'importance de trouver une certaine précision des mots. Nous avons pu parler de foi objective et de foi subjective. Il ne faut jamais perdre l'un et l'autre. Il y a l'expérience que l'on a de Dieu. Parce que certains vont dire, oh, tous ces mots, c'est... Moi, je crois, des fois, on dit, j'ai la foi du charbonnier ou... J'ai une foi bien plus simple que ça, et c'est très respectable.
Mais c'est vrai que les pères ont toujours dit « crois pour comprendre et comprends pour croire ». Et c'est important de donner à Dieu aussi notre intelligence. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses moyens, c'est aussi lui donner notre intelligence.